Sud Radio Sarroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Bonsoir tout le monde, 18h dimanche soir, vous êtes peut-être en train de rentrer à la maison, tranquillement installé devant la télévision. Oh ben non, on allume la radio s'il vous plaît. Salut mon Pierrot.
Salut ma Loulou, comment ça roule?
Eh ben ça roule plutôt bien et puis toujours heureuse d'être avec toi le dimanche pour terminer ce week-end. On va parler non pas de voiture ce soir mais de vélo, c'est quoi?
Une proposition qui a fait beaucoup de bruit, hein. Vous en avez peut-être entendu parler et puis elle a été très vite étouffée. L'obligation du casque pour les cyclistes. Alors je ne parle pas du casque audio, c'est-à-dire les écouteurs que mettent les cyclistes sur la route pour lesquels ils devraient être verbalisés d'ailleurs, au même titre que les automobilistes. Voilà, ça c'est fait. Je vais parler du casque pour les cyclistes. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'il doit être obligatoire pour les adultes ou pas? Parce qu'il l'est déjà pour les enfants de 12 ans. On va en parler parce que cette mesure, eh bien, elle crée un vrai clivage. D'ailleurs, Lolo, on n'en a pas parlé avant parce que justement, j'ai hâte de connaître ton opinion.
Oui.
Moi, j'étais assez partagé, puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a convaincu. Voilà.
On en parlera évidemment avec vous au 0826 300 300. Êtes-vous pour ou contre le port du casque pour les cyclistes, hein? Vous savez qu'on en a beaucoup parlé la semaine dernière, qu'il y a eu une proposition qui a été faite, et puis a priori ça a été retoqué au Sénat. Enfin, en tout cas, ça passe pas. Pour ou contre, vous en pensez quoi? 0826 300 300. Et puis nous allons évidemment aussi parler, c'est le gros sujet de la semaine, de la hausse des prix du carburant historiquement haut. Jusqu'où ça va aller? Comment vous arrivez-vous à limiter les dégâts? Comment vous arrivez à peut-être faire des micro-économies sur ces prix du gasoil qui d'essence en général, qui augmentent? C'est historique, hein, on n'a jamais vu aussi haut là.
Hein. Ouais, là c'est juste de la folie, mais on le dit depuis combien de temps nous?
Oula,
hein, ça ne nous rajeunit pas tout ça.
Oula, bah non, parce qu'on en parlait déjà avant les Gilets jaunes, puisque ça avait
Bien sûr, et on disait dans cette émission, d'ailleurs la seule émission qui le disait, que l'enjeu des carburants serait l'un des enjeux de la campagne présidentielle. On le disait bien avant les Gilets jaunes, et puis on rigolait, on disait « Oh, Chasseret, il dit encore n'importe quoi avec Mme Perrault !» Et au final, eh ben non, on disait pas n'importe quoi, la réalité est là. Et tu sais quoi, Laurence? Ça va encore monter.
Oh là là, c'est pas une bonne nouvelle ça, dis donc, monsieur Chasseret.
Ça va péter, au bout d'un moment ça peut
Allez,
pas être autrement.
Allez, on en parle avec vous, 0826 300 300, puis on en parlera avec un monsieur qui a une station essence, qui s'appelle Francis Pousse, qui est également le président des distributeurs du carburant et d'énergie nouvelle auprès du comité national des professionnels de l'automobile. Et puis vous le savez, à la fin de l'émission, vous avez rendez-vous avec Pierre pour discuter avec lui, pour échanger sur quelque chose qui vous énerve ou qui vous plaît sur la politique de la route en France aujourd'hui. 0826 300 300, c'est parti.
Sud Radio Sarroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Alors, on en a beaucoup parlé, puisque il y a eu un député qui a proposé de nouveau, il y a quelques jours, de rendre le casque obligatoire pour les cyclistes adultes. Et puis, c'est pas passé au Sénat quelques jours après. Pourquoi est-ce qu'on parle toujours de ça, pour ou contre le casque à vélo?
On refait un petit historique. Oui. Depuis maintenant quelques années, le casque a été rendu obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans.
Normal.
Mais pas pour les plus de 12 ans, parce que beaucoup craignaient que l'obligation du port du casque viennent mettre un frein au développement du vélo en France. Donc on s'est dit, on va libérer les contraintes sur les usagers cyclistes pour permettre un développement du vélo. Jusque-là, ça tenait. L'argument qui était avancé et qui a été testé, c'était de dire que si les enfants s'habituaient à porter le casque, eh bien, arrivés à l'âge de 12 ans, ils continueraient à le porter, qu'on n'avait pas besoin d'obliger, qu'il fallait passer par cette incitation, cette forme de pédagogie qui allait fonctionner, sauf que et bien il faut s'en rendre compte, et c'est comme ça peut-être que j'ai commencé à vriller sur mon opinion. On se rend compte que les enfants, lorsqu'ils passent 12 ans, le casque, ils ne le portent plus, ils arrêtent de le porter. Bonjour Teodoro Bartuccio.
Bonjour
Teodoro. Alors, on va rappeler qui vous êtes. Entre autres, à la tête, vous avez créé une association qui s'appelle Mon Vélo est une vie. Et puis surtout, vous êtes un professionnel des cyclistes, puisque vous vous occupez aussi d'une équipe professionnelle de cyclistes.
Alors, je suis directeur du Paris Cycliste Olympique, Division Nationale 1. Et puis, en même temps, on développe le savoir rouler à vélo sur la ville de Paris. On enseigne à peu près à 90 enfants par semaine le savoir rouler. Donc, on va dans les écoles et on enseigne le comment se déplacer à vélo.
Donc, vous savez de quoi vous parlez?
Oui. Et vous savez, en 2017, quand j'ai créé l'association Mon Vélo est une vie, au début, J'avais fait plusieurs plateaux télé et radio en leur disant « Mais non, il ne faut pas d'obligation, vous savez, ça ne sert à rien une obligation. Les gens, c'est de la logique, porter un casque, c'est simplement de la logique. On doit se protéger. » Et je me suis dit « Ça ne sert à rien. À un moment donné, on va mettre en place cette mesure gouvernementale. On va éduquer non seulement nos enfants, mais automatiquement, les parents vont prendre exemple sur les enfants. » Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec toutes ces années d'expérience dans les écoles, à chaque fois, c'est toujours le même résultat. C'est-à-dire que quand on dit, on arrive auprès des enfants en leur disant « Il faut mettre un casque », déjà, c'est une obligation à moins de 12 ans, mais on s'en fout un peu de l'obligation, surtout pour vous, c'est pour votre sécurité. Les enfants me disent « Mais n'importe quoi, papa, maman, ne le mettent pas, pourquoi moi je devrais le mettre ?» Donc, je me suis dit « Mais c'est pas possible, comment on peut pas enseigner à son enfant de pas mettre le casque ? Comment on peut pas protéger ses enfants, à tout simplement protéger la partie la plus sensible du corps ?»
Alors
qui
ça,
est
on
la
va
tête.
Revenir dessus, peut-être, on apporte un chiffre. On apporte un chiffre.
Ouais.
À 12 ans, Laurence.
Idée, moi.
À 12 ans, Laurence. Un enfant sur trois continue à porter le casque. Ça veut dire que 2 sur 3 abandonnent le casque. On va en discuter de l'utilité.
Ouais, mais moi, j'ai une idée. Vous savez, ce à quoi je pense, pourquoi les gens ont du mal ? Parce qu'historiquement, on n'a jamais porté de casque. Je fais partie de cette génération, quand on faisait du vélo, alors il n'y avait pas autant de voitures, alors, je ne suis pas vieille, il ne faut pas rigoler, mais dans les années 80, 90, il n'y avait pas tout cette... surtout dans les grandes métropoles, on ne portait pas de casque historiquement sur les vélos.
Et tu sais pourquoi aussi ? C'est parce qu'en fait, le vélo est associé à une notion de plaisir, de loisir et donc de liberté.
Ouais.
Et apporter une contrainte, parce que ça peut être vu, quoi qu'il arrive, quand même comme une contrainte. Ça veut dire, si je l'ai oublié, mon casque, je ne peux pas faire de vélo.
Et mon brushing, quoi.
Eh bien, apporter cette contrainte... non, mais forcément, apporter de la contrainte dans un milieu de liberté, c'est toujours difficile à accepter. Alors, je l'entends, et j'ai entendu l'argument de Théo. Moi, Théo, il m'a fait vriller. C'est-à-dire que j'étais plutôt favorable au casque, parce que moi, je le porte vis-à-vis de mes enfants. Puis après, je me suis dit, mais non, pas d'obligation. Et Théo m'a dit, mais regarde. Regarde Pierre, ça marche pas. Les cyclistes abandonnent le casque. Et puis, il m'a montré une étude. Cette étude, Théodoro, réalisée par l'université de Strasbourg.
Tout à fait.
Cette étude-là, ça a terminé le job sur moi. Parce que je me disais toujours, oui, mais bon, c'est bon, si je tombe à 15-20 km/h, il m'arrivera rien. C'est pas... et là, je voudrais que vous nous parliez de cette étude avec des mots simples pour que tout le monde comprenne bien l'intérêt de porter le casque à vélo.
Tout simplement, les tubes précisent que quoi qu'il arrive à n'importe quel kilomètre heure, on peut avoir 100% de dommages par rapport à la tête. Donc ça a été prouvé.
À combien ?
Ils ont fait trois schémas en fait. Il y a un schéma à 45 km/h, un 25 et puis un 10 km/h. Donc à partir de ce moment-là, on s'aperçoit que quand on n'est pas casqué, on est vulnérable, tout simplement. Moi, j'ai envie de dire, vous savez, la partie la plus sensible reste la tête. La partie la moins soignable reste la tête. Et alors, beaucoup de personnes vont me dire, oui, mais tu comprends, quand tu vas te faire renverser par un camion, même si tu as le casque, ça ne sert à rien.
C'est
oui,
vrai.
Évidemment que ça ne sert à rien. Mais par contre, le casque va servir pour les petits chocs. Quand vous êtes sur une piste cyclable, parce qu'on parle beaucoup en me disant, mais tu milites pour le casque, mais par contre, il faut militer pour les aménagements cyclables. On peut faire les deux. Moi, vous savez, moi, je suis pour les aménagements cyclables.
Puis ils ont explosé, les aménagements cyclables,
bien sûr,
depuis la Covid.
Mais j'ai envie de vous dire, quand on est sur des pistes cyclables, on est en cohabitation avec les piétons. Parfois, les piétons font pas attention et viennent sur les pistes cyclables. On est à 20 km/h.
Parfois, les vélos ne font pas attention et vont sur les trottoirs.
Les vélos ne font pas attention aussi. Donc, il peut y avoir des chocs. Et c'est sur les petits chocs qu'il faut qu'on soit casqué, tout simplement pour se protéger.
On continue d'en parler, si vous le voulez bien, dans quelques instants. Notre invité Théo Bartuccio, qui est, je vous le rappelle, à la tête de l'association Mon Vélo est une vie, association d'ailleurs créée suite au décès par accident d'un de vos amis à vélo. On pourra d'ailleurs en reparler, hein, parce que c'est des réalités avec ou sans casque qui peuvent malheureusement avoir lieu aussi. Et puis on aura Christian, qui est avec nous de l'Hérault, que nous entendrons et qui réagit à cette question que l'on vous pose aujourd'hui. Pour ou contre le casque obligatoire pour tous les cyclistes.
Sud Radio Sarroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et nous sommes avec vous, vous le savez, ensemble pour parler de ce sujet, dans quelques instants d'ailleurs, sur Sud Radio et dans Sarroul, on évoquera la hausse historique des prix des carburants, jusqu'où ça va aller, comment d'ailleurs on explique la hausse des carburants au-delà du prix du baril, comment limiter les dégâts, comment faites-vous pour moins payer ou en tout cas moins consommer le carburant, on en parlera avec Francis Pousse qui est entre autres à la tête d'une station-service. Mais tout de suite, mon Pierre, on parle de vélo. 0826 300 300, pour ou contre vous le casque obligatoire pour les cyclistes à partir de 12 ans. puisqu'on en a beaucoup parlé la semaine dernière avec notre invité qui est avec nous. Il s'agit de Théo Bartuccio, entre autres Mon Vélo est une vie,
directeur sportif voilà. Du Paris Cycliste Olympique.
C'est ça, ça c'est bien. Donc une équipe de cyclistes professionnels. Vous êtes avec nous au téléphone. Bonjour Christian.
Oui, bonjour.
Comment
ça va ? Je suis arrêté pour vous parler, vous voyez.
Ah, c'est cool.
Salut Christian, vous nous appelez d'où, Christian ?
Alors, je vous appelle d'une région qui est très agréable, qui est à côté de Béziers, entre le Cap d'Agde et Pézenas.
Alors là, je connais, c'est chez moi, donc donnez tout de suite le nom de la ville.
Non, c'est au-dessus, c'est 7. Entre Cap d'Agde et Pézenas, c'est plus bas que 7.
C'est
monsieur.
Chez moi, c'est un peu plus haut.
Alors, c'est plus bas.
C'est plus haut.
C'est plus haut. Ah, attention mon Pierre, t'as 7, ensuite, en dessous t'as Béziers, et entre les deux t'as Cap d'Agde et Pézenas dans le Cher.
Je suis pas d'accord. La réalité vient de Christian. Christian, c'est plus haut ou plus bas ?
J'y ai vécu. À mes parents.
Ok, vous êtes. Alors, ok, je vais juste pondérer un petit peu les choses. Vous êtes dans un triangle entre, effectivement, Béziers, Pézenas et Cap d'Agde. Ça vous fait une bonne forme triangulée. Vous avez un village qui s'appelle Valros, qui est un super village.
Et non, mais la question importante, Christian.
Là-bas, il y a.
La question importante, c'est bien Cap d'Agde et bien au sud de Sète quand on va vers Béziers.
Légèrement, oui, c'est vrai.
Merci Pierre Chasseret.
Mais il n'est pas au Cap, il est à Valros. Moi je vais te dire un truc. À Valros, il y a mon héros et ma mère.
Okay. Voilà. Écoute, on vous écoute, okay, Christian, pardon.
Je vous fais juste une petite rectification, puisqu'en plus je suis pilote. Entre Sète et Cap d'Agde, le Cap c'est un 270. D'accord ?
Un quoi ?
Oui, en deux mots, vous êtes légèrement sud-est, mais très très légèrement
sud-ouest. Très légèrement, mais au sud de Sète.
Voilà. Très légèrement. Okay. Je sais, je le vois de la fenêtre.
Allez, on parle vélo un peu après avoir parlé géographie, nous on adore.
Parlons vélo. Alors, à la réponse à votre question, personnellement, je suis partisan pour deux raisons. Rappelez-vous juste d'une chose, c'est qu'avant, les motards, les gens qui étaient en moto, ne portaient pas le casque. Et après, on a rendu le port du casque obligatoire. Mmh. Et on s'est rendu compte que la mortalité avait notablement baissé.
Fatalement.
Mmh. Et maintenant, tout le monde accepte le port du casque sur les motos et y compris aussi sur les scooters.
Et on ne reviendrait pas en arrière.
Et on ne reviendrait pas en arrière parce qu'aujourd'hui, on a fait d'énormes progrès dans la technologie du casque lui-même, dans la protection lui-même,
la légèreté, dans le confort du casque. Le confort, bien sûr.
Même esthétique.
Et aujourd'hui, pour le vélo, il y a un gros développement qui se fait sur le confort du casque. On prend en compte, effectivement, toutes les suggestions que vous avez aussi vous relevées quant à l'esthétique aussi pour les femmes, etc. Mmh. Mais je crois que ce qui est fondamental, c'est qu'il faudrait aussi se poser une simple question, c'est le travail que les chirurgiens ont à faire quand ils ont rattrapé le faciès d'une personne qui est tombée au sol et qui s'est fait défigurer complètement. Et là, vous verrez que le prix du casque, en regard, il n'est pas cher du tout.
Vous savez, Christian,
très adapté.
Théodoro m'a donné un argument pareil, moi, qui m'a fait vriller sur le port obligatoire du casque. Il m'a dit, écoute Pierre, il m'a dit, dans une voiture, tiens, Théodoro, raconte cette histoire, l'histoire de la voiture avec le côté exemplarité.
Oui, tout à fait. En fait, c'est ce que je disais l'autre jour. On peut pas demander à ses enfants de mettre la ceinture à l'arrière et puis à l'avant les parents de pas mettre la ceinture. C'est logique. Et je reviens tout à fait ce que je suis entièrement d'accord avec vous. À chaque fois que je rencontre des professionnels de la médecine, c'est toujours la même suggestion en me disant mais il faut rendre obligatoire le casque. À chaque fois, on a des gens qui arrivent à l'hôpital, qui ont des traumatismes crâniens, et ça devient c'est trop important, en fait. Il y a un vrai problème.
Parce qu'on le rappelle, le port du casque obligatoire pour les moins de 12 ans, pas obligatoire pour les adultes. Donc, ramener à la voiture, ça voudrait dire le port de la ceinture pour les gosses, mais pas pour les adultes. C'est-à-dire, on dirait aux enfants, non, on ne peut pas, elle ne la met pas, c'est pas obligatoire. C'est ridicule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a une mesure de sécurité qui est vraiment acceptable, et j'ai envie de dire, quelqu'un qui aime le vélo, vraiment, qui veut en faire, ça ne sera pas un frein pour lui.
Il mettra Christian, son casque. Qui habite donc au sud de Sète.
C'est pas vrai.
Si. Mais si.
Excusez-moi, une seconde si je peux me permettre.
Ah, j'allais vous poser une question, Christian.
Là, j'analyse un peu ce que vous avez dit. Il vous manque juste un petit propos dans votre analyse qui est ce qu'on appellera le démonstratif. C'est-à-dire, expliquer à un enfant pourquoi le port du casque est obligatoire, est une chose. Lui montrer un peu aussi les conséquences du non-port du casque est très important aussi.
Mais là, en l'occurrence, Christian, excusez-moi de vous couper, c'est pas trop les enfants dont on parle, c'est vraiment le port du casque à partir de 12 ans, donc pour les ados et les adultes. C'est à eux qu'il faut aussi montrer les dégâts.
Oui, mais c'est vous avez entièrement raison, mais il faut vraiment expliquer le pourquoi de la chose, montrer, aller faire un tour une fois à Garches, vous allez voir un peu les dégâts qui sont causés par des gens qui ont des motos et qui ne font pas attention, ou des gens qui ont des vélos et qui ne font pas attention, qui vont rouler trop vite et qui vont brûler un feu rouge et qui vont se faire éclabousser par une voiture. Et ouais, ces gens-là, ouais. Ils se retrouvent une
mais
fois...
Attention, peu importe la cause, hein, parce que j'entends déjà la voix de certains cyclistes qui vont dire « Oui, mais c'est peut-être la faute de l'automobiliste qui l'a shooté. » C'est peu importe la cause. Ce qui est important, c'est de protéger. On aura l'air malin à dire « Oui, ok, c'est pas de ma faute. Ok, c'est pas de ta faute, mais t'es à l'hôpital quand même. »
Et puis, n'accusons personne. Et puis, merci beaucoup, Christian, pour votre intervention. Mais parce que des fois, l'état de la route est aussi à l'origine de chutes. Mon papa est tombé parce qu'il y avait une route qui était très mauvaise. Alors, il s'est cassé plein de choses. La tête, il y avait un casque, il faisait du vélo avec un club, donc ça allait, mais...
L'état de la route, ça peut être l'état du vélo aussi.
Oui.
Imaginez que vous cassez votre chaîne. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous tombez en avant, d'accord? Et si vous n'êtes pas casqué, bah, traumatisme crânien.
Comment? Merci beaucoup à Christian, on vous embrasse très très fort du côté de l'Hérault.
Ne légiférez pas en permanence, je crois qu'il faut, plutôt travailler sur l'exemplarité. Légiférer, c'est agresser les gens. C'est leur donner...
Alors, donc vous êtes contre la loi, en fait, Christian, vous êtes contre l'obligation.
Comment on fait?
Non, je suis pour le système démonstratif. Je suis pas pour mettre toujours derrière des personnes des menottes ou des fusils en leur disant.
Alors c'est peut-être ça. Je vous trouve un peu dur parce que non, mais il y a pas il faut. C'est que on sait très bien comment on fonctionne tous, Christian. Je suis désolé, mais si on n'est pas obligé, on le fera pas. Enfin, excusez-moi, faut arrêter. Enfin, moi je suis pas d'accord en disant. Je suis d'accord sur le côté on peut apprendre, on peut amener des preuves, etc. Mais si on n'amène pas une obligation à un moment ou à un autre, regardez le coût de la ceinture de sécurité.
Ouais, puis je vais plier le truc, Fabio Casartelli, voilà, ça te parle Théo, coureur du Tour de France, 1995 si je dis pas de bêtises, je fais appel juste à ma mémoire, il chute dans une descente, il tape un caillou, il est pas casqué, si ce jour il est casqué, peut-être que sa vie est sauvée. Aujourd'hui dans le Tour de France, tout le monde porte un casque. Et je pense que dans le milieu professionnel, ça viendrait pas à l'esprit, Théodoro, dans ton équipe au Paris Cycliste Olympique, est-ce que tu as déjà entendu un de tes cyclistes dire « moi je mettrai pas le casque »
Quand j'ai commencé le vélo, je mettais pas de casque. Et puis, il y a eu la mort de Fabio, qui est décédé sur le Tour de France. L'UCI a fait l'obligation de porter un casque.
L'Union Cycliste Internationale.
Voilà, l'Union Cycliste Internationale. Et automatiquement, c'est devenu une obligation de porter le casque en compétition. Mais tout le monde a pris cette habitude de le mettre aussi à l'entraînement. Et quand vous regardez sur les routes, quand vous regardez des pratiquants sportifs, il n'y en a plus aucun qui ne portent pas de casque.
Okay.
Parce qu'il y a eu cette obligation. Et aujourd'hui, comme disait monsieur, il a tout à fait raison, un casque, c'est léger, c'est esthétique. Et puis maintenant, il y a des systèmes où il y a des lumières qui sont intégrées dedans. Et donc ça peut être aussi la solution par rapport à la sécurité, à la visibilité.
Bien sûr. Il n'y a plus de frein. Le seul frein aujourd'hui, c'est quelques réfractaires qui font du mal à la cause, à mon avis. Parce que quand on aime le vélo, on doit militer avant le développement, on doit militer d'abord pour la sécurité. Je sais, Théodoro, que tu es un passionné du vélo, et quand on a la passion du vélo qui coule dans les veines, et c'est aussi mon cas contre toute attente, eh bien, avant tout, on sécurise. Et c'est grand sécurisant qu'on peut développer après.
Vous savez, moi, je suis pas là pour développer la pratique du vélo, je suis simplement là pour développer la sécurité des cyclistes. Marre de voir des amis se faire percuter. Hier, j'étais sur la route, trop de dangers, inutilement. Vous voyez ce que je veux dire? Hier, il y a des voitures qui nous ont frôlés. Heureusement que j'avais mon casque. Alors, c'est sûr que si une voiture me tamponne, c'est compliqué, parce que même le casque me protégera pas à 100%. Mais vous savez, avant de demander aux autres de faire attention à moi, je dois faire moi-même attention.
Et puis surtout, il faut vraiment avoir la conscience de ce qui se passe dans nos villes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un tel développement du vélo comme moyen de déplacement qui était avant juste un moyen de loisir. Je ne sais pas combien, il faudrait qu'on arrive à avoir les chiffres du nombre de personnes qui, depuis la Covid, un peu avant, mais surtout depuis la Covid, utilisent le vélo. Et je ne sais pas si ça monte. En tout cas, moi, à Paris, je ne vois que ça. Et ça devient hyper compliqué. Ça se tasse un peu, mais parce que c'est l'hiver, Pierre. Je pense qu'au printemps, on va tous les voir.
Mais on a retrouvé le nombre de déplacements d'il y a un an ou deux. En fait, après un pic de développement, on revient sur... Mais quoi qu'il arrive, qu'on soit compte pour... En tout cas, il y a des usagers à vélo qui ont besoin d'être sécurisés, qui ont besoin d'aménagement. Il faut juste que ce soit fait intelligemment.
C'est ça. Voilà. Et puis, alors, pour ou contre l'obligation du casque, on dit quoi? On dit oui.
Allez, on vote.
On vote. vote.
Alors, allez, moi je dis pour.
Bah, avec tout ce que vous avez dit, je ne peux être que pour, sinon je suis un peu ridiculement bête. Je vais l'assumer. C'est vrai qu'au début, moi, quand je vais faire mes courses, je prends encore mon vélo sans mon casque.
Ouais, bon, mais peut-être bah, que là, peut-être que tu vas penser à Théo.
Voilà. Vous savez, la plupart des gens qui nous mettent des messages sur les réseaux sociaux et qui nous disent « oui, je suis pour l'obligation du casque », c'est parce qu'ils ont eu un accident en amont. Et ils ont compris, en fait, la nécessité d'avoir un casque.
J'en ai pas eu, je croise les doigts, mais moi, je le fais pour mes gamins. Je mets, j'ai un très beau casque.
En plus.
J'ai un très beau casque. Pas vrai, Théo. J'ai un très, très beau casque. Et je le mets parce que je veux montrer à mes enfants que se déplacer à vélo, c'est mettre un casque. Voilà, point.
Et puis, regardez, on va faire juste un parallèle avec l'équitation. À une époque, l'équitation, le casque n'était pas obligatoire. C'est devenu obligatoire suite à quelques accidents. Mmh. Et ben maintenant, tout le monde le met et il n'y a pas de souci, quoi. De toute façon, si tu ne portes pas ton casque, tu n'es pas assuré. Et généralement, les clubs ne te laissent pas monter sur le cheval. Voilà. Et ça se fait très bien.
Toutes les évolutions viennent du monde professionnel. Mmh. Au bout d'un moment, bien évidemment que le casque sera un jour obligatoire pour les cyclistes. Ça l'est dans le milieu cycliste. Donc ça viendra là, les innovations de voitures.
Le ski, c'est pareil, ça y est. Faites attention, vous qui allez sur les pistes.
Il faut que les réfractaires qui font beaucoup de bruit dans les médias soient remis à la place, parce que ce ne sont pas des militants du vélo, ce sont des militants anti-voiture avant tout. Voilà, quand on aime le vélo, on se protège.
Merci beaucoup Théo Bartuccio. Mon vélo est une vie, auteur d'ailleurs de livres aussi. Et puis patron du Paris Cycliste France.
Non, toujours pas.
Non,
Paris Cycliste Olympique.
Olympique. Bah oui, mais comme Paris va devenir olympique en 2024 et que c'est en France.
Mais nous, on sait que t'as raison.
Allez, merci tout de suite. Non, j'ai pas raison sur ce coup-là, je me suis bien planté. À suivre, la hausse du carburant, on en parle avec vous sur Sud Radio 0826 300 300.
Sud Radio Sarroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Hausse des prix des carburants, c'est historique, c'est reparti, ça recommence. Refaire son plein va devenir un vrai souci pour une grande majorité d'entre nous. On en parle de cette hausse des prix, mon Pierre, avec vous bien sûr au 0826 300 300. Vous nous appelez tout de suite pour nous donner votre avis. Est-ce que vous faites des choses un peu attention pour moins consommer? Est-ce que vous avez des plans B? Comment vous gérez tout ça?
Est-ce que vous siphonnez? Est-ce que...
Arrête, tu sais que...
Mais ça revient à la mode, mais c'est une catastrophe. Ah
oui, ça devient vraiment, c'est une catastrophe. Est-ce que cette hausse des prix est juste due au prix du baril de pétrole? Eh ben non, on va en parler avec Francis Pousse qui est avec nous au téléphone. Bonjour Monsieur Pousse.
Oui, bonjour.
Salut Francis.
Président distributeur carburant et énergie nouvelle auprès du CNPA, donc le Comité National des Professionnels d'Automobile, qui va changer de nom, qui est en train de changer de nom d'ailleurs. Et vous avez aussi une station essence au Mans, donc vous savez bien de quoi vous parlez.
Alors oui. Francis Pousse, première question, elle est très simple, on attaque dans le dur. L'État semble se dédouaner un petit peu sur ce coup-là en disant « c'est pas nous, c'est le prix du baril ». Allez, on fait le point, vous nous expliquez un petit peu à quoi sont confrontés les automobilistes aujourd'hui.
Alors oui, effectivement, le prix du baril se surenchérit, mais je rappelle que la majorité du prix du carburant, la grande majorité du prix du carburant, ce sont des taxes entre 60 et 70 centimes, selon que ce soit qu'on parle de gasoil ou d'essence, avec une TVA qui s'ajoute sur la totalité de ce prix, c'est-à-dire le coût du carburant, la taxe. Donc effectivement, le gouvernement s'enrichit quand on augmente le prix du carburant.
Donc ça veut dire, pour faire simple, comme la TVA est une taxe de 20% du prix global, plus le prix du baril monte, plus l'État engrange de l'argent. Alors, si je traduis ça à la hauteur de votre station-service, parce que vous êtes une petite station-service, en dehors, pour que tout le monde se situe en dehors de la grande distribution, qui aujourd'hui vous attaque dur, parce qu'elles font des opérations prix coûtant. Vous, c'est votre métier, les petites stations-service, vous ne pouvez pas faire du prix coûtant, sinon vous êtes juste mort.
Mais je rappelle que la marge nette, et c'est pas nous qui l'inventons, c'est l'État qui l'a prouvé, certes il y a quelques années, mais à l'occasion d'une énième crise où on nous demandait déjà de diminuer nos marges, et on a eu l'intelligence de faire intervenir les services du ministère des Finances à l'époque, qui a bien prouvé qu'on n'avait que 1 à 2 centimes tout réseau confondu. Ça, c'est la première chose. Mmh. Ensuite, Monsieur Leclerc s'attaque maintenant à la baguette. Ça fait des années qu'il s'attaque au carburant. On ne parle pas d'un vrai prix, puisque 29 centimes ne contient pas l'ensemble des coûts de distribution, la fabrication, l'amortissement. Évidemment. C'est exactement pareil dans le domaine du carburant. Effectivement, la loi dit un prix coûtant, c'est prix d'achat plus transport. mais quand est-ce qu'on prendra en charge les coûts de fonctionnement de cette station, les coûts du caissier, il y en a encore pas beaucoup dans les grandes surfaces. Donc vous comprenez bien que nous, alors que l'essence peut représenter 20, 30, 40, 50, voire 60% de la marge de la société, on ne peut absolument pas...
Vous comprenez l'automobiliste lambda, lui, il voit les prix qui explosent, il va être de plus en plus tenté, malheureusement, pour vous, par la grande distribution. Moi, je le comprends. Donc, on est en train de se tromper. Le chèque de 100 balles et 1 mars qui a été fait aux Français, on voit bien que ça marche pas. Et ça a éteint le feu médiatique. Bruno Le Maire a réussi à éteindre le feu médiatique avec la petite formule du 1 centime en moins de taxes, ça ferait 500 millions de moins dans les caisses de l'État, ce qui n'est pas tout à fait juste d'ailleurs. Mais on a éteint le feu médiatique. Aujourd'hui, ça reprend. Et derrière, moi, je suis persuadé à 100%. On en avait discuté à l'époque, pour être très franc, avec tous ceux qui nous étudient, qui nous écoutent, Francis Pousse.
Sur Sud Radio.
On va être honnête. Moi, je vous avais dit dès le départ, attention, le chèque de 100 euros, il ne va pas vous aider. Ce qu'il faut, c'est une baisse des taxes pour tout le monde. Sinon, on va perdre les petites stations-service qui font le maillage territorial, qui font le fait qu'on trouve encore quelques litres de carburant à côté de chez soi. Là, vous allez crever si on continue comme ça.
Eh ben, on va d'autant plus crever que c'est au moment où on a besoin de se diversifier dans notre activité énergétique, distribuer de l'électricité mais en bande rapide, distribuer du gaz, distribuer plus tard de l'hydrogène. Ces investissements sont très importants et le gouvernement, comme on dit dans la Sarthe, a mis la charrue avant les bœufs. Et alors, il aurait fallu booster les énergies alternatives et éventuellement après augmenter les taxes sur le pétrole. Là, on a fait dans l'autre sens. Donc nous, on n'a pas de capacité d'investir et on est de plus en plus fâchés contre le gouvernement à qui on dit qu'on est essentiel.
Et vous avez joué le jeu pourtant.
Oh oui, vous étiez ouvert tout le temps.
Moi, j'étais fermé dès le départ et je me souviens que vous avez vraiment joué le jeu. Vous avez fait confiance. Et aujourd'hui, la confiance, elle n'est pas au rendez-vous.
Pierre et Francis, restez avec nous parce qu'on a beaucoup d'appels au standard de Sud Radio. Je voudrais évidemment donner la parole à ceux qui nous rejoignent au 0826 300 300 dans Ça roule. Bonjour Renaud.
Et bonjour Sud Radio.
Alors moi j'adore vos chansons déjà.
Non, c'est pas le même, moi j'adore vos voitures, hein. On peut la jouer aussi.
L'île sur la Sorgue est une très belle ville.
Alors Renaud, vous êtes à Rodez.
Tout à fait.
Votre avis, alors vous, comment vous vous positionnez par rapport à cette hausse des prix du carburant qui est historique?
Ben, c'est une calamité, et puis c'était véritablement une vraie honte, vous l'avez dit. Ce qu'on a reçu là en fin d'année, là les 100 euros, même ceux qui n'ont pas de voiture, et ce qui est mon cas depuis longtemps maintenant, c'est juste une blague. Ça a encore augmenté récemment, et ça ne va faire qu'augmenter. Oui. Le seul avantage que cette augmentation a, en dehors de remplir les caisses de l'État, parce qu'on le sait, la plus grosse taxe, si je dis pas de bêtises, c'est la TICP. Le seul avantage qu'il y a, c'est pour la SNCF et sa filiale fret. Voilà, ça relance juste le fret SNCF.
Ouais, ça marche pas tant que ça.
Non. Du moins, il recommence. On a vu avec Rungis, il recommence à relancer doucement, petit à petit.
Médiatiquement. Voilà. Mais vous savez, il y a plein de sujets médiatiquement qui font du bruit, c'est pas pour autant qu'il y a du monde. J'apporte de l'eau à votre moulin. Les taxes carburant, c'est environ 43, 45 milliards d'euros dans les caisses de l'État par an. Ça pèse plus de la moitié de l'impôt sur le revenu. Voilà.
Ah oui, non, mais même sans parler de l'impôt, sur le portefeuille des Français, faire le plein, et c'est devenu...
C'est un braquage.
Fait, mais c'est plus comme... Ça va au-delà du braquage. En fait, déjà, Macron, avec la vaccination...
Ça, c'est un autre sujet. Non, mais ça, c'est un autre sujet. On va pas aller dessus.
C'est un autre sujet. Mais quelque part, pour moi, c'est plus ou moins lié.
Non, c'est pas lié.
C'est faire le plein. Ouais. Se faire vacciner.
Non, ça n'a rien à voir. Je peux pas vous laisser, Renaud...
Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est devenu, en fait, la voiture, c'est devenu un luxe. Voilà.
Vous
voulez une voiture, vous payez les assurances qui sont hors de prix maintenant. Vous payez une essence qui maintenant, bientôt va falloir, comme vous le disiez tout à l'heure, limite siphonner, même si c'est complètement illégal.
Non, mais c'était une blague. Arrêtez, on peut pas laisser dire ça sur cette antenne non plus. C'était une stop. Oui, non, mais on sait que ça va arriver. Non, mais Renaud, c'est pas vous.
Je le dis, je t'entends de la blague, mais vous vous rendez compte qu'il y a un temps où il y a déjà eu des blocus de Total, etc. pas parce que ça avait augmenté. On va aller où comme ça?
On est
en train d'appauvrir.
Tout à fait.
Je vous réponds.
On se pose toutes ces questions.
Je vous réponds. Et Francis Pousse, vous allez derrière m'arrêter parce que c'est vous le professionnel.
Merci beaucoup, Renaud, de votre intervention.
Merci, Renaud. Moi, je vais vous répondre à Renaud. On va vers un 2 euros le litre, y compris en province.
Ah ben, on y est, là.
Non, mais y compris en province. Ah oui. Pour l'instant, on y est.
Sur des stations, on y est sur des stations de grande ville.
Sur quelques stations de grande ville, puisque les coûts d'exploitation de nos confrères parisiens sont énormes. Ils sont livrés par moitié, même pas par quart de camion, parce qu'on peut pas rentrer plus gros, etc., Donc c'est un épiphénomène, mais moi le premier ce matin, j'ai encore subi une hausse. Et sur le samplon 98, j'y suis pas, mais j'aurais très très mal au cœur quand je devrais annoncer 2 euros.
Là.
Ça c'est sûr.
Il y a un autre truc. Le pauvre Francis Pousse, moi je connais sa station-service à Francis Pousse. Il est dans un milieu où à côté vous avez une station-service d'une grande distribution. Donc forcément la concurrence elle est rude. C'est-à-dire que derrière vous devez plus ou moins vous aligner, sauf qu'on rogne sur la rentabilité de la structure. Donc derrière ça va se ressentir sur l'emploi, ça va se ressentir sur la pérennité. Moi je m'inquiète, mais je m'inquiète pour les stations-service qui sont, moi tiens, je pense à Péragude, moi voilà, station-service de. En bas du col de Perrosourde, à Loudenvielle, ça va être une catastrophe.
Je voudrais juste, François Pousse, qu'on explique aussi quelque chose que nous, on a l'impression... Francis.
C'est pas grave.
C'est son frère.
Excuse-moi. Jumeau. Francis, on a l'impression que c'est juste dû à cause de la hausse du baril de pétrole, mais en fait, ce qu'on ajoute au niveau écologique et propre, bah, ça aussi, ça a augmenté. Racontez-nous un petit peu tout ce qui se passe avec l'éthanol, qui a vachement augmenté, et donc du coup, ça augmente aussi le prix de l'essence classique, enfin du carburant classique. Y compris le diesel.
Alors, comme on veut faire du bio, et effectivement, on a bien compris les impacts du dieselgate et compagnie, on veut faire du bio, on met du bio dans les carburants, à peu près, alors sur le E10, vous avez à peu près 8,5, sur le gasoil, on est entre 6 et 7. Ce bio vient de la terre, on est d'accord?
Ouais.
Ça vous a pas échappé que, et c'est le problème des boulangers, que les matières premières agricoles ont augmenté. Donc, fatalement, les matières premières agricoles qui participent à la création de la part bio de ce carburant a augmenté.
Et voilà. Les betteraves, par exemple.
Voilà, les betteraves pour l'éthanol. Donc ça a surenchéré encore le coût du carburant. Je veux juste rappeler, parce que c'est important, il faut être honnête dans la démarche, que dans un litre de carburant, vous payez aussi ce qu'on appelle des C2E, des certificats d'économie d'énergie.
C'est quoi ça?
50% des C2E produits en France sont apportés par le carburant. Ça représente à peu près 5 à 6 centimes.
Ça sert à quoi?
Par litre vendu, et ça sert par contre, c'est un avantage, c'est une redistribution, c'est ce qui permet de financer les travaux de rénovation énergétique chez les particuliers. Les aides fameuses en ce moment, les fenêtres, l'isolation, sont financées par ces C2E.
Oui, d'accord.
Et ça, on ne savait pas.
Mais j'entends bien.
On l'apprend sur Sud Radio dans sa rue.
Alors, ça, c'est super. Merci de l'information. Effectivement, ça m'aide à avaler un peu la pilule. Mais je suis désolé, pas tant que ça. Parce qu'au final, un automobiliste, il a besoin de faire le plein sur un produit qui est l'un des trois produits les plus taxés en France. Des produits les plus taxés au monde. La France est championne quasiment du monde de la taxe sur les carburants.
Ça veut dire quoi, Pierre? Ça veut dire qu'à 40 millions d'automobilistes, on prône la baisse des taxes déjà.
Mais de toute façon, il faut être clair. Il n'y a pas 50 solutions. Aujourd'hui, maintenant, il y en a qu'une. Le gouvernement Macron est face à une réalité qui va se poser de plus en plus au moment de l'élection présidentielle. Que proposent les candidats à l'élection présidentielle sur les prix des carburants? Pour l'instant, c'est le flou artistique. Je résume vite. Anne Hidalgo, Marine Le Pen, baisse des taxes. Éric Zemmour, pour l'instant, a annoncé une sorte de remboursement de carburant par les chefs d'entreprise, comme pour les frais liés au transport en commun. Ouais. Ça me paraît pas très tenable. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme positionnement? J'oublie qui? Les écolos.
Mélenchon, bon, Mélenchon.
Monsieur Mélenchon propose le blocage des prix, mais il n'a pas dit à combien. Donc, il en manque un bout. Si on bloque à 2 euros, moi je veux bien, mais c'est pas un gros blocage. Donc bloqué, très bien.
Madame
Taubira,
on l'a pas entendu.
On l'a pas entendu. Valérie Pécresse, je n'ai plus sa mesure en tête, mais ça ne passe pas par une baisse des taxes.
Valérie Pécresse a annoncé non hier sur BFM TV. Le budget de l'État ne le permet pas.
D'accord. Enfin, c'était pas hier, c'était Francis, ouais, c'était mardi dernier. Là, on est dimanche. Juste une chose, on a Laurent aussi qui nous appelle du Lot-et-Garonne. Bonjour Laurent.
Allô.
Oui, bonjour Laurent. Oui. Merci de votre patience, mais le sujet est tellement passionnant.
Lolo du Lot.
Ah non,
Garonne.
Lolo du Lot.
Et Garonne, parce qu'il y a Lolo de Sarroul Sud Radio et Lolo du Lot et Garonne. On vous écoute.
Oui, bonjour à tous, d'abord. Eh bien, sur ce sujet de la hausse des carburants, on est vraiment taxé par notre gouvernement, et effectivement, c'est, comme vous le rappeliez, un des produits les plus taxés. Et je pense qu'en fait, ils ne prennent pas en compte les difficultés quotidiennes des citoyens.
Parce qu'ils ne sont pas dedans, mon Lolo. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ne sont pas dedans. La France rurale qui vit dans le Lot-et-Garonne, alors même quand on est proche d'une grande ville, on vit la ruralité lorsque l'on n'est pas sur Paris, Lyon, Marseille, Nantes, et voilà. Et quand on n'est pas dans ces grandes villes, ce que vous vivez, vous, ce n'est pas ce que vivent les candidats à présidence.
Pierre, comprennent surtout pas. Que Laurent du Lot-et-Garonne, il est exploitant dans le secteur agricole, et cette hausse du carburant, pour lui, elle est super inquiétante, c'est ça, Laurent?
Tout à fait. Alors, elle est inquiétante à double titre parce que j'utilise les carburants donc pour les véhicules, pour nos trajets quotidiens et pour les livraisons, mais également aussi pour le chauffage des installations. Et donc, mais je me mets aussi à la place du citoyen lambda qui travaille et qui a besoin de son véhicule pour aller à son lieu de travail. Et en fait, on est sur une baisse de pouvoir d'achat conséquente et on devrait mettre en place des mesures de diminution des taxes parce que aujourd'hui on lit les deux problèmes, c'est-à-dire on lit la hausse des taxes à l'écologie. On voudrait faire de l'écologie punitive en disant on va faire payer plus de taxes aux gens qui utilisent des véhicules parce que effectivement c'est mauvais pour l'environnement. Mais on ne peut pas faire de l'écologie quand on n'a pas les moyens de la faire. L'écologie, c'est une politique de personnes aisées. Il faut d'abord que les gens aient les moyens de vivre convenablement pour ensuite envisager de faire de l'écologie.
Vous savez qu'il y a aujourd'hui... Laurent, vous savez quel est le premier parti de France ? Ce sont les abstentionnistes.
Oui.
Voilà.
Oui.
Et vous savez pourquoi ? Parce que justement, aujourd'hui, moi, je ne dirais pas pour qui, mais il y a des candidats pour qui j'ai de l'affection à titre humain, d'autres que j'ai rencontrés, que j'ai trouvé sympa, mais pas très crédible en tant que candidat, mais peu importe. Moi, je vais vous dire juste, aujourd'hui, je les sens tous en dehors des réalités des Français. Et c'est ça qui fait peur. Quand j'entends Valérie Pécresse dire que le budget de l'État ne peut pas se permettre, au bout d'un moment, il faut regarder ce que c'est le budget de l'État. Est-ce que le budget des Français peut se permettre de tels prix ? C'est bien beau de voir le budget de l'État, mais le budget des Français... Moi, je vous racontais une réalité. Lolo, dans mon village, j'habite dans un village, j'ai des gens qui sont en train de choisir entre se déplacer ou se chauffer.
Ouais.
Et comme ils doivent se déplacer, ils font quoi ? Ils se chauffent pas. Il y a des gamins à la maison. Mmh. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On vit une société où aujourd'hui, les gens doivent choisir entre mettre trois pulls sur eux ou aller au travail.
Et puis, on a la hausse des carburants. Et malheureusement, on va finir le sujet là-dessus. Merci beaucoup, Laurent du Lot-et-Garonne, d'être intervenu. Mais il y a la hausse de l'électricité, la hausse du gaz.
La hausse de l'énergie.
Ouais. La hausse de tout ce qui est énergie. Ouais. Francis Pousse, le mot de la fin, parce qu'on arrive à la fin de notre...
Qu'est-ce que vous voulez dire aux candidats et au président ?
Voilà.
Mais il faut bien évidemment que les énergies soient acceptables. D'ailleurs, on pourra noter que sur l'électricité, on a quand même su supprimer une taxe de 9 milliards. Donc quand on me parle de 5 milliards annuels pour 10 centimes de baisse, c'est peut-être crédible. D'autant plus que cette baisse de TICPE, si on parle d'elle, elle n'est pas forcément annuelle. Peut-être qu'on en aura besoin pendant 6 mois, donc ça ne coûterait que 2,5 milliards.
Même pas, parce que là, on est dans le trop perçu, on n'est pas dans le manque à gagner.
Ouais. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Et pour revenir à mon métier, il est indispensable de conserver un maillage territorial d'approvisionnement en produits énergétiques. Je le dis exprès comme ça parce que c'est pas que le gazole ou le sans-plomb, ça sera les autres. On a aujourd'hui un maillage qui est tout à fait, les 5800 stations que je représente, on a un maillage qui est tout à fait fin pour distribuer l'ensemble des nouvelles énergies. À une époque où le gouvernement n'a pas atteint ces 100 000 bornes, puisqu'on en est loin, on doit être à 52 000 bornes de recharge électrique, on leur dit banco, allons-y, mais on n'est absolument pas entendu. Or, on a su aider nos collègues débitants de tabac à hauteur de 100 millions pour leur transformation, puisqu'on a aussi augmenté le prix.
Le mot de la fin.
Ouais. Et moi, je vais le donner, le mot de Francis Pousse. C'est que pendant le confinement, le commerce essentiel, c'était aussi le distributeur de carburant et qu'on était bien content de les trouver. Donc aujourd'hui, il faudra peut-être les entendre.
Et puis au-delà de ça, c'est qu'on ne peut pas vivre sans aujourd'hui.
On peut pas.
Pour l'instant,
c'est tout.
On ne peut pas vivre sans.
Et aujourd'hui, c'est pas quand on n'aura plus de stations-service sur le maillage territorial et qu'on pourra plus faire le plein qu'il faudra se plaindre.
Merci beaucoup, Francis Pousse, d'être intervenu. Je rappelle que vous êtes président distributeur carburant et énergie nouvelle auprès du Comité national nationale des professionnels de l'automobile. Vous avez aussi une station essence au Mans, donc vous savez très bien de quoi vous parlez. Merci à vous qui êtes intervenu au 0826 300 300. Dans quelques instants, eh bien, nous allons vous donner la parole. Vous voici venu le moment de l'échange avec Pierre. Vous avez envie de discuter, de parler, de râler, de dire votre accord ou désaccord sur ce qui se passe sur la politique routière ou tout ce qui se passe autour de la route en France. On vous attend.
Sud Radio Sarroule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et pour conclure notre rendez-vous, eh bien, nous allons accueillir Pascal. Pascal qui nous appelle de l'Aude pour l'échange avec Pierre. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous habitez où dans l'Aude ?
J'habite à Fontcouverte, c'est entre Carcassonne et Narbonne.
Exactement, c'est très 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 beau. Il y a un restaurant exceptionnel d'ailleurs, vous n'êtes pas très très loin, c'est plus du côté de Narbonne, à Fonjoncouze, où l'ami Monsieur Goujon vous attend sur son magnifique restaurant 3 étoiles. Si vous passez par là, allez-y au moins une fois dans votre vie, c'est un vrai bonheur. Bon, on n'est pas là pour parler gastronomie, Pascal. Pierre vous écoute.
Écoutez, vous avez entièrement raison, c'est le roi de l'œuf parfait, ce qui n'est pas exact. Tout à fait le cas de la politique de la route et des usagers de la route et des industriels de la route.
Alors, on vous écoute, que voulez-vous dire exactement ?
Eh bien, c'est simple. Moi, je suis un ancien commercial, je suis à la retraite depuis un an. Pendant 37 ans, j'ai fait une moyenne de 120 000 km par an, donc je suis qu'un petit utilisateur de la route.
Exactement.
Et quand j'entends mon homonyme délégué de la sécurité routière, Monsieur Barbe...
Il n'est plus là, c'est fini depuis. Vous le reverrez plus, comme dirait l'expression consacrée.
Au moins, je reprends de la fierté à porter mon nom. Parce que quand on veut trouver des solutions sur la route, comme dans le reste du monde, on tourne en rond pour ne rien faire, et ça m'a agacé toute ma vie sur la route, et ça m'agace encore, parce que en fait, on cherche à faire de nouvelles choses, alors qu'il suffit d'appliquer des règles simples pour minimiser les choses.
Alors ça y est, je vois où vous voulez en venir. C'est-à-dire que vous ce que vous me dites là, c'est inutile de prendre davantage de mesures, le code de la route est déjà assez fournie. Arrêtons de rajouter des mesures, faisons déjà respecter les règles du jeu. J'ai bien résumé ?
Oh, pas tout à fait, mais c'est un peu ça. C'est simple, vous voyez.
Donc je suis pas loin.
On se pose des questions sur les accidents sur la route. Or, c'est très simple. Pourquoi un camion double un camion alors qu'il est limité à la même vitesse ? Pourquoi une voiture a un compteur qui est faux et que les gens qui croient rouler à 130 km/h disent « mon compteur est faux, donc il roule à 135 ». Celui qui roule à 130 dit « moi je respecte 130 ». Donc on roule tous les trois sur la même file, sur la même truc, on partage un lieu commun et personne en fait ne fait pour que ce soit respecté. Sur la voiture, s'il y avait un bouton où on clique 130 et qu'on roule à 130, d'accord, Personne n'aurait besoin de se doubler.
Alors, votre proposition, si on doit en extraire une, parce que j'ai bien compris qu'il y en aurait plusieurs, alors j'ai fait un petit calcul pour ceux qui me voyaient à l'antenne, j'ai multiplié 37 années de carrière par 120 000 km, vous avez fait quand même 4 440 000 km dans votre vie à titre professionnel,
wow.
Ça reste propre, donc vous savez à peu près de quoi vous parlez.
Sans accident,
donc ça c'est chouette. Ce que vous proposez, c'est une mesure simple qui permettrait d'avoir, sans avoir un outil d'aide à la conduite connecté dans la voiture, hein, Coyote, Waze, Google, ce que vous voulez, vous proposez que les constructeurs mettent en place des compteurs kilométriques qui soient précis, de manière à ce qu'il n'y ait pas des gens qui disent bah moi je vais rouler 5 de plus parce que mon compteur est faux et en fait vont se faire prendre au radar parce qu'il était juste, etc. Ce que vous demandez, c'est que les constructeurs mettent en place des compteurs de vitesse qui soient juste parfaits par rapport à la vitesse à laquelle on roule.
C'est effectivement une solution très simple qui pourrait être mise. La deuxième chose, comme je vous l'ai dit, c'est je ne comprends pas qu'un camion qui est limité à 90 km/h et aujourd'hui a la possibilité d'y rouler, quelles que soient les circonstances, de charge ou d'autres choses, pourquoi ce camion limité à 90 km/h double un autre camion ? Il y a forcément un problème.
Non, mais c'est vrai que surtout le gain... Alors, j'ai la solution, parce que j'en ai parlé à nos amis sur la route routier, c'est toujours la même problématique, celle que vous donniez au départ, c'est qu'en fait, certains vont rouler au régulateur de vitesse pour être persuadés de ne pas être pris au radar, et en fait, quand ils roulent au régulateur, eh bien, une variation d'un ou deux kilomètres heure par camion peut faire qu'au bout d'un moment, ils se retrouvent derrière un camion. Nous, quand on roule derrière un camion, on n'apprécie pas parce qu'on manque de visibilité. Eh bien, vous savez quoi ? Le routier sur la route, il est pareil. S'il veut rouler 1 ou 2 km/h plus rapidement que son collègue qui est en face, malheureusement, s'il veut se libérer de la visibilité, il va dépasser. Alors, je suis comme vous, je suis très ennuyé par ce genre de situation où des fois on est sur autoroute et on a envie de s'arracher les cheveux.
Excusez-moi Pierre, moi ça m'ennuie pas du tout. Vous savez, on utilise tous plus ou moins souvent dans notre vie l'autoroute A7. Sur l'autoroute A7, vous avez un col qui s'appelle le col du Grand Bœuf. Le col du Grand Bœuf, il est interdit de doubler 5 km avant et 5 km après pour tous les poids lourds.
Ok, et ça double quand même.
Et c'est équipé de caméras tous les 200 mètres.
Eh ben, vous connaissez la solution. La solution que je propose, elle est très simple. C'est remettre en place une police de la route qui est là pour traquer les comportements véritablement dangereux. Donc, si on mettait ça en place, eh bien, je peux vous dire que ça n'arriverait plus. Ça serait aussi bête que ça.
Mais en tout cas, quel bel échange. Moi, je suis très frustrée, malheureusement, que ça se termine maintenant parce qu'il faut que l'on vous laisse. Pascal, c'était exceptionnel. Vous n'hésitez pas à revenir discuter avec nous, Pascal. Vous êtes vraiment... En plus, vous avez du bon sens, vous avez de l'expérience. Merci beaucoup d'être intervenu dans Ça roule ce dimanche soir. On vous retrouvera très vite. Waouh, je suis frustrée là que ça s'arrête maintenant, mais l'heure, c'est l'heure, malheureusement. Merci beaucoup, mon Pierre. On se retrouve dimanche prochain.
Il a fait 100 fois le tour de la Terre dans sa carrière en voiture.
Dimanche prochain pour le prochain rendez-vous de Ça roule, et on te retrouve dès demain matin dans les petits matins.
6h17, aux côtés de Benjamin Glaise. Faut être matinal, hein, mais quand on aime la route, on est matinal. On compte pas. Allez, et puis on prend le petit café ensemble.
Passez un bon dimanche soir et bon début de semaine à tous.